8 heures sur
et
France Culture.
Et on est bien sur France Culture.
Et il est 8 heures, Yannick Jadot, et c'est Amélie Perrier qui présente le journal. Bonjour Amélie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. La démocratie britannique visée par un attentat. Theresa May, la chef du gouvernement, dénonce une attaque perverse contre la liberté hier à Londres. Les services de renseignement, eux, maintiennent leur niveau d'alerte.
Et nous verrons avec Éric Biégala pourquoi les djihadistes reculent en Syrie et en Irak, mais restent une menace redoutable en Occident.
Une guerre oubliée, le Yémen. Des ONG dénoncent une crise humanitaire catastrophique. La population est au bord de la famine.
François Fillon crie au complot et pointe du doigt François Hollande. L'Élysée serait à l'origine des fuites et du chaos de sa campagne présidentielle.
Et enfin une première pour les défenseurs des animaux, les employés des abattoirs du Vigan dans le Gard comparaissent au tribunal aujourd'hui pour acte de cruauté. Une action en justice ouverte à cause des images révélées par l'association L214. Touché au cœur, dans son cœur, politique, démocratique, Londres a replongé dans la terreur hier après-midi. Un homme a foncé dans la foule avec sa voiture sur le pont de Westminster avant de tenter d'entrer dans le Parlement. Là, il tue avec son couteau un policier à l'entrée et est abattu par un autre agent. Bilan ce matin, 5 morts et une quarantaine de blessés. La chef du gouvernement britannique, Theresa May, s'est exprimée hier soir, vêtue du noir du deuil. Mais pas question de baisser la tête devant le terrorisme, on l'écoute.
Le lieu de cette attaque n'était pas un hasard. Les terroristes ont choisi de frapper le cœur de notre capitale. Dans ces rues de Westminster, qui abritent le plus vieux parlement au monde, est enraciné un esprit de liberté qui résonne dans certains des endroits les plus lointains du globe. C'est pour cela qu'il s'agit d'une cible pour ceux qui rejettent ces valeurs. Mais permettez-moi de le dire, toute tentative de vaincre ces valeurs par la violence et la terreur est vouée à l'échec. Demain matin, le Parlement se réunira comme d'habitude. Nous nous retrouverons comme d'habitude. Les Londoniens et ceux du monde entier qui sont venus ici pour visiter cette belle ville se lèveront et vivront leur journée normalement. Et nous allons tous ensemble aller de l'avant, sans jamais céder à la terreur. Et sans jamais laisser les voix de la haine et du mal nous diviser.
Voilà l'intervention d'hier soir de la chef du gouvernement du Royaume-Uni, Theresa May. On apprend il y a quelques minutes qu'une opération a été menée cette nuit à Birmingham dans le cadre de l'enquête sur l'attaque. Les autorités restent très discrètes. Le niveau d'alerte terroriste, lui, n'est pas relevé. Niveau 4 sur 5 aujourd'hui, avec des services britanniques de toute façon bien conscients des risques depuis plusieurs années. Londres a déjà connu des attaques et les dispositifs de sécurité avaient alors été renforcés, Christian Chéneau.
Depuis 3 ans, le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni est fixé au niveau grave, c'est-à-dire le 4e échelon sur une échelle de 5. Sur le terrain, les autorités avaient renforcé le nombre de policiers armés à Londres, une mesure prise après les attentats de Paris. Les services britanniques étaient conscients que les terroristes pouvaient frapper à tout moment. Début mars, Scotland Yard avait d'ailleurs annoncé avoir déjoué 13 tentatives d'attentats depuis juin 2013. Arnaud Dessène, patron de la société de sécurité Eris, assure que les services de police sont sur le pied de guerre dans toute l'Europe.
On ne peut pas parler de fatalité. Il faut savoir que le directeur du MI6 a rappelé fin décembre le risque élevé d'attaques terroristes sur le territoire du Royaume-Uni. Après, on a quand même une multiplication des cibles à traiter pour les services de renseignement. Mais il faut savoir que ce soit au Royaume-Uni, en Belgique ou en France, de façon quasiment hebdomadaire, les services de renseignement déjouent des attaques ou neutralisent des cellules.
Pour ce professionnel de la sécurité, la lutte antiterroriste est un combat de longue haleine qui nécessite aussi de développer la résilience de la population.
Alors pour l'instant, pas de revendication. À Londres, l'assaillant barbu vêtu de noir aurait agi seul, selon les enquêteurs. Le mode opératoire fait penser à celui des djihadistes de l'État islamique. Hasard du calendrier ou pas, hier aussi avait lieu à Washington la grande réunion de la coalition internationale anti-Daesh. Les 68 pays engagés militairement contre l'EI en Syrie et en Irak. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Amélie.
Tout le paradoxe, c'est que Daesh recule au Proche-Orient, mais reste une menace très sérieuse en Europe et en Occident en général. général.
Oui, et on pourrait même dire qu'il devient une menace d'autant plus sérieuse en Occident et ailleurs qu'il recule en Irak et en Syrie. Là-bas, l'État islamique recule, oui, mais il s'agit d'une zone de guerre, d'un affrontement classique, pourrait-on dire, reposant sur le contrôle d'un territoire. Au fur et à mesure que celui-ci se réduit, le califat autoproclamé d'Al-Baghdadi s'étiole et disparaîtra probablement en tant qu'entité politique territorialisée, mais pas comme entité idéologique. Or, le cœur de cette idéologie reste le djihad, c'est-à-dire la guerre.
Donc ils sont voués, Eric, à concentrer leur action sur le djihad, l'attaque des mécréants, selon leur terminologie.
Ou les mécréants, ou les apostats, et ça veut dire potentiellement absolument tout le monde, hein, des nations occidentales aux musulmans chiites de l'Iran, en passant par les pays pourtant réputés plus proches de leur appréciation de l'islam, comme l'Arabie Saoudite. Une fois que les djihadistes n'auront plus de contrôle sur un territoire syro-irakien, ils basculeront tout simplement dans la clandestinité la plus complète et sèmeront là où ils pourront. Il semble d'ailleurs qu'ils aient largement préparé le terrain. L'enquête autour de l'attaque contre la discothèque Reina d'Istanbul le 31 décembre dernier a révélé par exemple que le terroriste, qui a agi absolument seul, disposait pourtant d'un très important réseau en Turquie. Plus de 50 personnes ont été arrêtées. On a retrouvé chez elles de l'armement, des faux papiers, des faux passeports par dizaines, près d'un demi-million de dollars en cash, tout un ensemble de cash et de planques, des appartements loués des mois à l'avance, toute une structure clandestine, sans doute établie de longue date, en vue d'attaque. Il faut aussi se souvenir de ce qu'Abdelhamid Hamaoud, le chef du commando ayant commis les attentats de Paris, avait lâché à une amie de sa cousine avant d'être abattu à Saint-Denis, qu'il était arrivé en Europe occidentale avec plus de 90 autres soldats du califat à l'été 2015. C'était peut-être une fanfaronnade, mais peut-être pas, ce qui voudrait dire que l'État islamique a d'ores et déjà constitué en Europe son réseau de cellules dormantes qui attendent le bon moment ou simplement l'ordre de se réveiller et d'attaquer.
Eric Bigala, merci beaucoup. À propos de la Syrie, les négociations de paix reprennent aujourd'hui à Genève, en Suisse, avec des représentants du régime et de l'opposition. Quatrième session en un an et assez peu d'espoir de trouver une issue au conflit qui dure depuis maintenant 6 ans, a fait plus de 320 000 morts et des millions de déplacés. C'est une autre guerre presque totalement absente, cette fois des radars médiatiques, tant il est dangereux d'y envoyer des reporters notamment. Le Yémen, déchiré entre partisans du régime et rebelles chiites houthis, chacun soutenu par les voisins régionaux, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Première victime, la population, au bord de la famine. 6 ONG présentes sur le terrain sonnent aujourd'hui l'alarme. L'État le plus pauvre de la péninsule arabique traverse une crise humanitaire sans précédent, Bénédicte Robin.
Plus de la moitié de la population, soit au moins 17 millions de personnes, souffrent d'insécurité alimentaire, de malnutrition aiguë. Marina Bénédicte, la coordinatrice générale de Médecins du Monde sur place, revient tout juste du Yémen. Son constat est encore plus inquiétant.
Moi, je peux dire que dans certaines zones du pays, elle est déjà dans la famine. Des gens, depuis des mois ou des jours, n'ont plus définitivement de quoi manger.
Car déjà avant le conflit, le Yémen dépendait à 90% des importations. Maintenant, pratiquement plus rien n'arrive. Le blocus sur les armes décidé par l'ONU en 2015 s'est progressivement transformé en embargo humanitaire.
Entre les ports qui sont fermés pour moi à 100%, l'aéroport de Sanaa qui est un grand aéroport, qui est fermé à la population, qui est fermé à tout commerce, ça veut dire depuis plusieurs mois il n'y a pas d'importation. La dernière réserve va finir fin de ce mois-ci.
Et même quand finalement les denrées arrivent, les acheminer jusqu'aux populations est une bataille avec des routes, des ponts coupés, des centres de santé détruits, des zones de conflit et des checkpoints à traverser.
Ça veut dire négocier à chaque fois qu'il y a besoin, effectivement.
Pour transporter 250 tonnes de denrées alimentaires arrivées depuis plusieurs semaines, explique le docteur Serge Bresse d'Action contre la faim.
Et dans un pays où le conflit est important comme au Yémen, c'est en permanence devoir expliquer notre mission, rappeler qu'on est neutre. Donc là, c'est des négociations administratives avec les personnes qui tiennent, je dirais, ces zones-là.
L'intensification des combats ces derniers mois et les bombardements de la coalition renforcent la gravité de cette situation que les ONG dénoncent comme une violation du droit humanitaire international.
C'est un baptême du feu pour Donald Trump devant le Congrès. Son projet d'abroger l'Obamacare, la couverture santé mise en place par son prédécesseur, divise, y compris dans son camp républicain. La Chambre des représentants doit voter aujourd'hui sur la suppression du texte et son remplacement par le plan Trump. Le président américain n'est pas sûr de pouvoir compter sur sa majorité, alors il multiplie les pressions sur les élus. Frédéric Carbone nous appelle de Washington.
Depuis quelques jours, c'est comme si Donald Trump avait en permanence devant lui un boulier pour compter les voix de sa réforme de la santé.
All of these no's are all yeses.
Tous ces votes non sont devenus des votes oui, se félicite ainsi le président américain après avoir reçu dans le bureau ovale des élus républicains sceptiques. Parce que pour l'instant, tout se résume à une bataille interne au parti au pouvoir, à la Chambre des représentants. En effet, les républicains disposent d'une confortable majorité, mais la frange conservatrice trouve que le texte ne va pas assez loin. Il faut repousser le vote, nous avons besoin de changements. C'est de l'Obamacare light, se plaint un de ses élus. Alors Donald Trump cajole et menace, il reçoit des représentants de ce lobby dans sa résidence de Mar-a-Lago, mais il va également au Congrès leur prédire une déroute électorale si ce texte ne passe pas. Et à quelques heures du vote, son porte-parole prévient, il n'y a pas de plan B. Pour Donald Trump, l'enjeu est majeur. Si la loi est adoptée, il pourra se poser en super négociateur. S'il ne trouve pas de majorité, tout son chantier législatif sera retardé.
La correspondance de Frédéric Carbone à Washington.
Il est 8h passées de 10 minutes sur France Culture, le journal d'Amélie Perrier, avec deux chefs de l'État qui font irruption dans la campagne présidentielle.
Le russe Vladimir Poutine, d'abord, a fait savoir hier que François Fillon n'avait pas joué l'intermédiaire lors d'une rencontre avec un milliardaire libanais. Hier, le Canard enchaîné racontait comment le candidat de la droite avait été payé 50 000 dollars par le riche industriel pour le mettre en relation avec le chef du Kremlin. Et puis dans la matinée, c'est François Hollande qui est allé de son commentaire lors du Conseil des ministres. Il a martelé qu'il ne pouvait y avoir de suspicion à l'égard de ceux qui briguent les plus hautes responsabilités. Machination, complot, a riposté François Fillon. Selon le candidat, l'Élysée est responsable du naufrage de sa campagne, Louise Baudet.
Jamais François Fillon n'avait tapé aussi fort. Le candidat LR très en colère après l'intervention de François Hollande qui, en Conseil des ministres, réclame l'exemplarité à ceux qui occupent les plus hautes fonctions, mais aussi à ceux qui les briguent. Dans un communiqué, le PS réclame carrément son abandon. Alors François Fillon sort de ses gonds.
Les masques tombent. La machination, elle est maintenant aux yeux de tous les Français. Chaque semaine, il y a des fuites. Organisées par qui ? Par les services de l'État. Et comme par hasard, le Parti socialiste, M. Macron, M. Hollande, se jettent sur ces pseudo-révélation pour exiger qu'il n'y ait pas de candidat à droite.
François Fillon sur France Info, il en fait trop, raille quelques minutes plus tard le candidat socialiste Benoît Hamon.
Lynchage, machination, etc., etc. C'est à peu près ce que toutes les personnes confrontées à des affaires disent. Il n'y a pas de machination, il y a la justice qui fait son travail, il y a le fonctionnement de l'état de droit. Et chaque fois qu'un élu est en difficulté, j'observe qu'il oublie les grands principes, c'est assez classique. En général, ça se termine toujours de la même manière aussi.
Une fin tragique, c'est ce que redoute le camp Fillon, en manque d'idées pour rebondir. L'affaire Le Roux réactive l'affaire Fillon et cette histoire de costume à 13 000 euros fait encore plus mal que le Penelope Gate. Confidence d'un très proche de François Fillon en pleine déprime.
Une nouvelle prise pour Emmanuel Macron. Dominique Perben, ancien ministre de la Justice, engagé dans la campagne d'Alain Juppé lors de la primaire de la droite, soutient donc maintenant le candidat d'En Marche. Manuel Valls, lui, n'a pas dit ouvertement qu'il était derrière son ancien ministre de l'économie, mais il ne parraine pas Benoît Hamon et cela lui vaut aujourd'hui une condamnation de la haute autorité des primaires citoyenne. Un tel comportement contrevient gravement au principe de loyauté et à l'esprit même des primaires, regrette l'instance. Une petite victoire pour l'association L214. À l'origine des images choquantes dans plusieurs abattoirs français, elle a réussi à porter son message jusque devant un tribunal. Le premier procès du genre s'ouvre aujourd'hui à Alès, dans le Gard. Trois employés des abattoirs du Vigan, certifiés bio, comparaissent pour des actes de cruauté envers les animaux. Le récit de Charlotte Pirey.
C'est une vidéo tournée en caméra cachée qui est à l'origine de ce procès. Pendant 4 minutes, on y voit successivement des moutons balancés par-dessus une barrière, une vache reprendre conscience avant d'être égorgée ou l'usage de matériel inadapté, comme l'explique pour l'association L214, la chanteuse du groupe Lily Wood and the Prick.
À l'abattoir du Vigan, tous les animaux sont théoriquement étourdis. Mais la pince électrique est défaillante. Le choc électrique devrait entraîner un état d'inconscience immédiat. Ce qui n'est clairement pas le cas. La violence et parfois même le sadisme sont fréquents. Cet employé donne délibérément de brèves décharges électriques aux moutons et s'amuse de leur réaction.
En février 2016, l'association L214 porte plainte et les trois employés visibles sur la vidéo sont attendus ce matin sur le banc des prévenus. L'un d'eux jugé pour acte de cruauté envers des animaux encourt 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. La communauté de communes du pays viganais est également poursuivie car il s'agit d'un abattoir municipal, une petite structure misant sur les circuits courts et qui plus est certifiée bio, bref, l'abattoir idéal en théorie.
7 autres enquêtes du même type ont été ouvertes en France suite aux révélations de l'association L214. Et s'il fallait encore une preuve du réchauffement de la planète, les glaces de l'océan Arctique ont atteint leur plus faible étendue en 38 ans, constat fait par la NASA et le Centre américain de la neige et des glaces. Pas de surprise puisque l'année 2016 a été la plus chaude jamais enregistrée sur la planète. Et l'on termine donc logiquement avec le temps de ce jeudi. Encore beaucoup de pluie et d'orage, de la neige sur les massifs. Au petit matin, il fait entre 3 et 7 degrés. Cet après-midi, on attend 11 degrés à Bordeaux, 12 à Calais, 14 degrés à Paris, 16 à Nancy, 16 degrés aussi à Nice et à Perpignan. Voilà, c'est la fin de cette édition préparée avec Brice Garcia. C'est à vous, Guillaume Erner.
Merci Amélie Perrier.